Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. Nous commémorons cette année le bicentenaire de la naissance d'Alexis de Tocqueville. L'Académie des sciences morales et politiques est impliquée dans cette commémoration, puisque le colloque consacré au thème Tocqueville entre l'Europe et les États-Unis vient de se clôturer ce mardi 31 mai par une allocution d'un de ses membres, le sociologue Raymond Boudon. Mais c'est à Cerisy-la-Salle, dans la Manche, que pendant 5 jours, philosophes, politologues, historiens, sociologues et autres spécialistes se penchèrent sur l'œuvre d'un des plus grands écrivains du 19e siècle. Un temps oublié, cet homme politique, cet historien français que fut Tocqueville, est redécouvert depuis une quarantaine d'années grâce notamment et surtout aux commentaires de Raymond Aron. 5 jours de colloque pour un seul homme, et nous verrons que ce n'est pas terminé. C'est beaucoup et peu à la fois au regard de cette œuvre établissant un pont entre la France et les États-Unis, une œuvre également au carrefour de bon nombre de disciplines. Alors, quelles furent les orientations de ce colloque, quels furent ses débats, ses conclusions? C'est ce que je vous propose de voir, de découvrir aujourd'hui avec Agnès Antoine et Françoise Mélogneau. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Agnès Antoine, vous êtes déjà venue à ce micro pour nous parler de votre livre « L'impensé de la démocratie, Tocqueville, la citoyenneté et la religion », un ouvrage paru aux éditions Fayard en 2003, un ouvrage qui a reçu le prix de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous enseignez également, vous enseignez à l'École des hautes études en sciences sociales. Je me tourne vers Françoise Mélogneau, vous êtes, vous, professeure à la Sorbonne, vous avez participé à l'édition des œuvres complètes d'Alexis de Tocqueville. En 2003, vous avez publié ses correspondances anglaises, le tome 3, je crois. C'était un tome unique.
Oui, en fait, on a surtout publié en 2003 le dernier volume de la Pléiade, les écrits historiques de Tocqueville.
Alors, vous avez également écrit plusieurs ouvrages sur Tocqueville, dont Tocqueville et les Français, un ouvrage paru en 1993 que j'ai utilisé pour préparer cette émission, un ouvrage paru aux éditions Aubier. Alors, il me semble important de rappeler, ne serait-ce qu'en quelques minutes, qui fut Alexis de Tocqueville et pourquoi existe-t-il un lien si fort entre les États-Unis et la France à son propos, Françoise Mélogneau.
Sur ce qu'il fut, on peut s'étonner parce qu'au fond, rien ne semblait prédestiner le jeune Tocqueville à devenir le plus célèbre des interprètes des États-Unis. Il est descendant par son père d'une vieille famille de noblesse d'épée du Cotentin. Son père lui-même était un des préfets ultra sous la Restauration, assez fortement conservateur, quoi comme des Lumières, et par sa mère, il est arrière-petit-fils de Malesherbes, qui est célèbre à la fois pour avoir été le protecteur des philosophes du XVIIIe siècle et pour avoir défendu Louis XVI devant la Convention. Donc, certes, une ascendance prestigieuse d'homme des Lumières, mais au fond, on ne voyait guère pourquoi ce jeune homme d'un milieu assez conventionnel, enfin assez traditionnel, était destiné à devenir un des grands penseurs politiques de la démocratie.
Comment arrive-t-il aux États-Unis donc ?
Eh bien, en fait, il y arrive par déception. C'est-à-dire qu'il commence, la lignée maternelle, par une carrière de magistrat, à la façon du XIXe siècle, c'est-à-dire qu'il est tout juge, il est un jeune juge auditeur, c'est-à-dire stagiaire non rémunéré, il fallait faire ses preuves avant d'être rémunéré, et vient la Révolution de Juillet. Comme sa famille est légitimiste, il est privé de tout appui. Et donc, il n'a plus vraiment de possibilité de carrière. Et d'autre part, ça c'est la marque de son intelligence, quand il voit arriver la Révolution de 1830, il se dit que la France est véritablement rentrée dans ce qu'on pourrait appeler une ère nouvelle. Du coup, tout ce qui est héritage aristocratique, régime mêlé d'aristocratie comme l'Angleterre, lui paraît condamné par l'histoire. Et c'est pour ça qu'il va voir aux États-Unis ce que pourrait être un régime démocratique. Donc, sur une question théorique, finalement, il part à partir d'une expérience historique dramatique à ses yeux, qui est la Révolution de juillet 1830, et il va chercher aux États-Unis une réponse. Est-ce qu'il peut y avoir une démocratie qui soit paisible, qui soit pas tout le temps marquée par des révolutions ?
C'est un homme précoce intellectuellement ?
Oui, c'est un homme très précoce. Si vous pensez qu'il publie La démocratie en 1835, le premier volume, il a tout juste 30 ans.
Alors, il me semble important de montrer au cours de cette émission l'actualité de l'œuvre d'Alexis de Tocqueville. Et d'ailleurs, ce fut un des sujets, un des thèmes des conférences de ce colloque, donc organisé à Cerisy à la fin du mois de mai. C'est Jean-Claude Casanova qui a abordé ce thème. Et vous-même, Françoise Bellogno et Agnès Antoine, vous montrez très clairement l'actualité de cette œuvre tocquevillienne. En quoi est-elle si actuelle ?
Alors, ce qu'on cite d'ordinaire, alors on peut avoir plusieurs réponses, hein, et elles ont varié au fond au cours des années récentes. Ça, Jean-Claude Casanova l'avait très bien expliqué. On a longtemps considéré, dans les années 50-60, qu'elle était actuelle parce qu'elle semblait prédire la guerre froide, au motif que Tocqueville avait prévu l'opposition entre les États-Unis, pays de liberté, et la Russie, pays de servitude. Et donc, il y a tout un débat entre Khrouchtchev, Eisenhower, etc., autour de Tocqueville. Bon. Ça, je dirais que ça a complètement disparu. L'idée que c'est un précurseur de la guerre froide, avec l'affaiblissement de la guerre froide, a perdu vraiment tout intérêt. On a pensé aussi qu'il était très actuel en raison de sa réflexion sur les constitutions, quelles sont les garanties nécessaires aux individus, etc. Ça, c'est une actualité qui est réelle aujourd'hui encore dans la pensée constitutionnelle. Le colloque, curieusement, ne s'est pas intéressé à cela. Peut-être parce qu'on en avait assez des débats sur les constitutions. Toujours est-il que le colloque s'est finalement centré autour de ce qui est le plus partagé aujourd'hui dans les réflexions des commentateurs sur Tocqueville, c'est-à-dire la réflexion sur la combinaison entre l'égalité et puis la liberté.
Nous y reviendrons, oui.
Et donc c'est vraiment autour de cette question, comment dans des sociétés démocratiques égalitaires peut-on... garantir la liberté et même la déployer, que la pensée de Tocqueville est actuelle.
Agnès Antoine, comment considérez-vous l'actualité, la pensée tocquevillienne ?
Oui, enfin, pour reformuler d'une certaine façon ce que vient de dire Françoise, je crois que si les contemporains sont si sensibles à la pensée de Tocqueville, c'est que il a pointé finalement la difficulté des sociétés démocratiques à créer du lien social, hein, à ne pas finalement désassocier en quelque sorte les individus tout en leur donnant au moment même où elles leur donnent leurs droits et de façon égalitaire. Donc il y a cette question qui est très présente et qui du coup oui, rencontre beaucoup de préoccupations contemporaines. Et puis, liée à celle-là, bien qu'elle soit différente, il y a aussi une question, je dirais, morale, une question liée au sens, hein, qui reste aussi problématique dans nos sociétés. Hein, c'est-à-dire comment, finalement, arriver à des croyances communes, quel sens donner, finalement, aux sociétés modernes qui, par ailleurs, ont acquis tout un confort matériel, qui ont progressé au plan matériel, mais qui se posent quand même encore beaucoup de questions sur le plan moral.
C'est un des thèmes bien évidemment abordés par votre livre. Je me retourne vers vous, Françoise Bellogno. Vous dites « Si Tocqueville est un maître aux heures d'inquiétude, la République une fois assise, il n'est plus qu'un penseur éculé. » C'est une constante de la postérité de l'œuvre tocquevillienne d'être mise en exergue quand la République est en crise.
C'est une constante d'être mis en exergue quand on se pose des questions sur à la fois le régime politique dans lequel on vit et sur son assise sociale. Si vous voulez. C'est très net que dans l'histoire de la réception de Tocqueville, il est absolument central sous la monarchie de Juillet, le Second Empire et le début de la Troisième République. Et puis une fois la constitution républicaine bien installée, à ce moment-là, son œuvre apparaît en quelque sorte inutile. Le modèle américain est moins central, on s'interroge moins sur les dangers que court la liberté. Et ça me semble vrai encore dans l'Europe ou les États-Unis d'aujourd'hui. Ce qu'on va chercher en Tocqueville, en général, c'est l'avertissement sur les dangers possibles. C'est pas une doctrine établie, si vous voulez, sous forme de recette toute prête, c'est bien davantage une analyse des dangers qui menacent et puis une réflexion sur les évolutions possibles.
Un des aspects de l'œuvre de Tocqueville, En tous les cas, toutes les personnes qui se penchent sur cette œuvre ont tendance souvent à faire des anachronismes.
Oui, alors ça tient à... ça tient à deux choses. Ça tient au fait que nous vivons encore pour partie dans le monde qui était le sien, c'est-à-dire dans un monde qui se pense comme un monde égalitaire et de plus en plus égalitaire. En ce sens, on peut dire que depuis la Révolution française, on n'a pas quitté un cycle historique, vous voyez, qui déploie les promesses de la Révolution française. Donc, de ce point de vue, il y a une forme de permanence des questions tocquevilliennes parce que nous sommes dans un monde qui présente des traits semblables. Mais il y a une deuxième raison qui tient peut-être au style de Tocqueville. S'il paraît si volontiers anachronique, si on est si volontiers tenté par l'anachronisme, c'est aussi parce que sa pensée prend une forme très générale, très formulaire. Et du coup, on a tendance à oublier les enquêtes sur lesquelles elle est fondée. On oublie le monde particulier qu'il avait sous les yeux et on substitue notre propre monde.
Je reçois Françoise Mélogneau et Agnès Antoine. Nous évoquons les conclusions ainsi que les débats qui eurent lieu lors du colloque consacré à Tocqueville entre l'Europe et les États-Unis. Vous me disiez hors antenne, Françoise Mélogneau, qu'il s'agit de la première partie d'un colloque qui se terminera en fait aux États-Unis à Yale très prochainement. Et les actes de ces deux colloques seront donc publiés à l'automne 2006. Nous nous retrouvons dans un instant.
Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie répond à la question « Faut-il faire confiance aux historiens ?» Quelques exemples de communication, « Les historiens et la légende noire du Second Empire », Sacha Guitry et les historiens, « Peut-on faire confiance aux historiens de la médecine ?» Les archives nationales. Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance. Plusieurs fois par jour, retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Canal Académie.
Christophe Dickès.
Nous reprenons le cours de notre émission. Nous commémorons cette année le bicentenaire de la naissance de Tocqueville et je reçois Agnès Antoine et Françoise Mélogneau pour évoquer ce grand écrivain du 19e siècle. Alors, je me tourne vers Françoise Mélogneau. Comment définir Tocqueville ? Était-il d'abord politicien ? Était-il philosophe ?
Ah, c'est une question difficile parce que tout le monde ne s'accorde pas sur la réponse à donner. Je crois que ce qu'il souhaitait devenir, c'était un homme politique. Ça, il le dit à un de ses amis dès 1828, donc il est tout jeune, il a 23 ans. C'est l'homme politique qu'il faut faire en nous. Et donc, au point de départ, il est clair qu'il voulait réfléchir en fonction d'une action à entreprendre. C'est une dimension constante de la pensée de Tocqueville que de réfléchir toujours aux conséquences dans la réalité sociale des idées qu'il développe dans ses œuvres. Simplement, à partir de cette vocation politique, il est vrai que surtout dans le second volume de La démocratie en 1840, où il réfléchit sur la nature des sociétés démocratiques, là, il acquiert une stature de théoricien. Donc, c'est quelqu'un dont la vocation politique est première, mais qui devient théoricien. Et qui ensuite, à partir de cette phase théorique, va redevenir un homme politique pendant longtemps, puisque en fait, il est quand même député de 1839 au coup d'État de 1851. Donc les deux choses sont complètement entremêlées chez lui. Vous voyez, je crois qu'on peut pas séparer la vocation politique, inégalement réussie d'ailleurs, et la vocation théorique.
Vous le voyez de la même façon, Agnès Antoine ?
Oui, je suis tout à fait d'accord pour cette idée d'une dialectique entre la pensée et l'action. En fait, Tocqueville ne séparait pas les deux. Enfin, l'un nourrissait l'autre. Donc, il y a ce goût du politique qui peut s'investir différemment, soit dans le métier politique, soit dans la réflexion à proprement parler. Et d'autre part, Tocqueville ne dissociait pas non plus l'aspect moral, enfin moral et politique. Donc, il y a aussi une certaine logique au fait, qu'il ait souhaité pousser la réflexion sur un plan théorique du fait qu'il y avait aussi cette dimension morale.
On connaît son bon mot et voici la révolution qui recommence car c'est toujours la même. Est-ce que dans cette action politique, il souhaitait au fond terminer cette révolution ?
Oui, il est clair que son but après la révolution de 1830, c'est de donner à la démocratie une forme stable en France, une forme stable et libérale, hein, à la fois. En même temps, il est parfois difficile à interpréter, parce qu'il est vrai qu'il veut sortir des révolutions, mais qu'une société sans révolution et qui deviendrait immobile lui fait au moins aussi peur. Donc il voudrait, après 1830, amener la France à la stabilité, mais quand il voit le régime conservateur de Guizot produire une sorte de léthargie générale, la France s'ennuie, dit Tocqueville, à ce moment-là, il se lamente que les grandes révolutions deviennent rares. Arrive 1848, qui lui paraît tourner de façon vraiment dangereuse dès les combats de juin 1848. Et là, il reprend le thème et voici la révolution qui recommence, car c'est toujours la même. Donc il est toujours partagé, si vous voulez, entre le sentiment que les révolutions doivent être évitées, qu'il faut trouver une forme stable, et l'ennui d'une société dans laquelle il n'y aurait plus aucun élan collectif. Les révolutions, du coup, lui apparaissant comme une sorte d'élan romantique qui valent peut-être mieux que le sommeil collectif.
Dans votre livre, vous consacrez plusieurs pages à François Furet. Vous avez écrit un article dans la revue Commentaire à son sujet. Furet terminait la Révolution avec la Troisième République. Vous pensez que Tocqueville l'aurait terminé avec la Troisième République ?
Je pense que oui. Et que si Tocqueville avait vécu... Alors là, c'est vraiment de l'histoire-fiction, mais on peut en faire un petit peu.
Au micro d'un jour dans l'histoire, on a l'habitude de faire beaucoup du chronique.
Mais il aurait vraisemblablement, comme un certain nombre de ses amis, été de nouveau dans le personnel politique de la Troisième République.
Alors, la démocratie en Amérique, c'est l'œuvre majeure, l'œuvre qui lance en quelque sorte sa carrière d'écrivain. Et il y a un autre ouvrage qui est l'Ancien Régime et la Révolution. Alors d'un côté, la démocratie en Amérique est un classique aux États-Unis. De l'autre, l'Ancien Régime et la Révolution est un classique en Europe. Il parle, je vais vous citer page 157 pardon, de votre ouvrage. Vous dites « Allemands et Russes durent beaucoup à la lecture de l'Ancien Régime qui décrivait le passé des Français, mais le présent des Allemands et des Russes. Comme s'il y avait dans l'Europe un cours forcé de l'histoire faisant passer toutes les nations à des dates différentes de l'Ancien Régime à la Révolution. » Est-ce qu'il y a un déterminisme dans l'œuvre tocquevillienne ? Est-ce qu'il y a même un fatalisme ?
Un fatalisme, sûrement pas. Là, Tocqueville est même extrêmement net. Et les passages les plus nets sont dans sa correspondance avec Gobineau, qui était à la fois un de ses proches et idéologiquement, au fond, un des plus éloignés des penseurs du temps. Vous savez que Gobineau, tout jeune homme, avait été recruté par Tocqueville pour l'Académie des sciences morales et politiques, pour participer à un grand rapport sur les progrès de la morale. Et puis Tocqueville a pris ensuite Gobineau comme chef de cabinet, en 1849, au ministère des Affaires étrangères. C'est après cette collaboration que Tocqueville est amené à réagir sur la théorie gobinienne des inégalités. Et pour Tocqueville, s'il y a une chose inacceptable, c'est l'idée d'un fatalisme qui condamnerait les gens à la servitude. C'est inacceptable, si vous voulez, sur le plan théorique, parce que ça n'est pas ce qui lui paraît ressortir du cours de l'histoire, et puis c'est inacceptable moralement, parce que c'est condamner les gens sans leur laisser la chance de la liberté.
Et il croyait sincèrement en cette liberté ?
Il croyait à la possibilité pour tout peuple, plus ou moins lentement, d'accéder à la liberté.
Alors,
même pour les Français. Ce qui était difficile, à son avis, sous le Second Empire.
Oui. Agnès Antoine, vous parliez du côté moral et vous évoquez donc la religion, l'importance de la religion et de la morale dans votre livre, L'impensée de la démocratie. Vous rejoignez ce point de vue de Françoise Mélogneau sur cette absence de fatalisme. Au contraire, la morale, la recherche d'une morale permet de lutter contre les thèses développées notamment par Gobineau.
Oui, tout à fait. Et Tocqueville est extrêmement clair là-dessus. À plusieurs reprises, il le dit très, très clairement. Et il dit même qu'au fond, il n'aurait jamais pris la plume, par exemple, S'il ne pensait pas qu'on peut changer le cours des choses par l'action humaine et donc le déploiement de la liberté. Donc on insiste parfois sur le Tocqueville pessimiste à cause justement de l'acuité, de son regard critique sur la démocratie, sur les risques qu'elle court si elle n'est pas suffisamment consciente de certains mécanismes. Mais au fond, s'il a dénoncé toutes ces menaces, c'est avec l'idée justement de en quelque sorte de poser un levier qui pouvait faire bouger ensuite les choses et amener les hommes à prendre la responsabilité de leur destin. Ça, c'est tout à fait même au cœur de sa pensée. Donc, c'est vraiment une pensée qui est tout le contraire du fatalisme. Mmh. En revanche, il est vrai qu'il met il lit l'histoire de l'humanité d'une certaine façon à travers le prisme de l'égalité. En voyant donc l'idée d'égalité s'avancer très lentement, de façon presque inexorable à travers les âges, en dépit des apparences parfois. Et il relie cette idée à une avancée providentielle. Et le fait qu'il recourt au concept de providence a pu faire penser, à certains commentateurs qu'il y avait comme ça un côté déterministe. Alors c'est compliqué parce que l'idée de providence elle-même est compliquée. Toute l'articulation dans la pensée chrétienne entre la liberté, la grâce, est complexe. Il y a cette idée, j'ai essayé de défendre l'idée que ce n'est pas un pur effet rhétorique, comme on a pu aussi le penser. Hein, Tocqueville aurait employé ce concept de façon très rhétorique. Il y a des références derrière, par exemple un retournement de l'emploi qu'ont fait justement les penseurs traditionnalistes de ce concept, pour dire d'une certaine façon l'inverse. Hein. Mmh. Joseph de Maistre, par exemple, utilise beaucoup ce concept pour finalement analyser la catastrophe que représente la Révolution française. Tocqueville montre qu'apporte la Providence, c'est précisément l'égalité et qu'on ne doit pas lutter d'une certaine façon contre cette avancée. J'ai essayé de défendre l'idée que ce concept, finalement, loin d'être justement déterministe dans la philosophie de Tocqueville, pourrait être au contraire le moyen qui empêche de tomber dans des philosophies de l'histoire déterministes telles qu'il y en a énormément au moment où il écrit, de style hegelianisant, avec des fonctionnements très 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 déterministes. Voilà, donc ça serait un peu long d'entrer dans le détail de ce concept de providence, je crois que il sauvegarde en même temps cette idée de liberté, très paradoxalement.
Alors, une des caractéristiques, et j'ouvrirai une parenthèse, une des caractéristiques de l'œuvre tocquevillienne, c'est la comparaison d'une part entre la France et d'autre part avec les États-Unis. Donc c'est un point que je voudrais aborder et que nous aborderons, si vous le voulez bien, après une seconde pause. À tout de suite.
Canal Académie. Écoutez Canal Académie, on retrouve Christophe Dickès.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Françoise Méloniaux, professeure à la Sorbonne, auteure du livre Tocqueville et les Français, grande spécialiste de l'œuvre tocquevillienne, un livre paru aux éditions Aubier et Agnès Antoine, prix de l'Académie des sciences morales et politiques, pour son ouvrage L'impensé de la démocratie aux éditions Fayard. Alors, nous sortons de ce grand colloque qui a eu lieu à Cerisy dans la Manche et nous évoquons ces différentes conclusions conclusion. Un des thèmes abordés notamment par Seymour Drescher dans ce colloque est la question du comparativisme, si je puis m'exprimer ainsi, qui est très présente dans l'œuvre de Tocqueville. C'est vraiment une des grandes caractéristiques de l'œuvre tocquevillienne, où faut-il voir, j'allais dire, l'Ancien Régime et la Révolution française dans une continuité de la démocratie, ou comme vraiment une volonté de comparer les deux?
Toute l'œuvre de Tocqueville est sous l'angle de la comparaison, en fait. Hein. Et il dit même que l'esprit ne s'éclaire bien que quand on met un autre objet à côté de l'objet de son étude, si vous voulez. Et donc, il y a d'une part une forme de géopolitique, il y a une comparaison entre les grandes sociétés de son temps. Le but étant toujours d'éclairer par comparaison la société française, hein, et d'élaborer à partir de ça une forme de typologie des sociétés démocratiques. Donc, dans ces comparaisons, dont Seymour Drescher a bien montré donc, qu'elles ont une finalité pratique. Hein, comment comprendre la société où nous vivons? Il y en a toute une série. On cite toujours la comparaison avec les États-Unis parce que c'est évidemment la plus évidente, puis celle qui est dans le titre de la démocratie en Amérique. Mais Seymour Drescher a montré combien la comparaison avec l'Angleterre est constante dans l'œuvre de Tocqueville. Elle est présente en réalité dans les deux volumes de la démocratie et de nouveau très fortement dans l'Ancien Régime. Ça n'est pas la seule comparaison. Il y a aussi une comparaison avec l'Allemagne, moins présente dans la démocratie, mais très présente dans l'Ancien Régime. L'Ancien Régime montrant plusieurs sociétés marquées par l'héritage aristocratique et une forme d'absolutisme, au premier rang desquelles l'Allemagne et la France. Donc, il y a des comparaisons en synchronie, comparer des sociétés qui sont contemporaines dans le temps. Et puis, il y a aussi des comparaisons à l'intérieur, des comparaisons diachroniques, comparer la France d'Ancien Régime à la France de nos jours. Et l'Ancien Régime est bâti sur une réflexion constante entre le présent et le passé. Donc, je crois que c'est vraiment la démarche intellectuelle fondamentale. Et pour dégager les traits essentiels, il faut procéder par comparaison.
Et un souci pédagogique dans l'œuvre tocquevillienne de manière générale?
Il y a un souci persuasif. Hein. Pédagogique, il s'adresse à un public cultivé. Mais il y a un souci persuasif en ce sens. C'est de la rhétorique au sens le plus noble du terme de rhétorique. C'est-à-dire que il dit lui-même que non seulement il ne faut pas dire les vérités n'importe comment, mais il faut dire les vérités les plus utiles. Et donc il y a des sujets dont il ne parle pas parce qu'il pense que ce ne sont pas des vérités utiles. Et d'autre part, dans la façon même dont il écrit ses ouvrages, il y a le souci de disposer les arguments en fonction de l'effet à produire. D'où les grandes introductions très solennelles qui mettent l'histoire en perspective par rapport au dessin providentiel, les conclusions, même chose, hein, c'est toujours vu de haut, bon. Et puis des chapitres qui, eux, sont plus descriptifs.
C'est ce qui fait la force de Tocqueville, sa capacité de recul sur les événements, la force de son œuvre.
Oui, c'est sa capacité à voir les faits avec un recul qui va jusqu'à essayer de prendre le point de vue de la Providence. Oui.
Alors, l'œuvre de Tocqueville, nous le disions tout à l'heure, est dominé par la question de l'égalité. Fabrice Wilhelm, au cours de ce colloque, s'est penché sur ce concept d'égalité, expression d'envie, comme l'a qualifié Tocqueville. Fabrice Wilhelm dit que la démocratie, que les démocraties se situent entre deux abîmes, celui de l'égalitarisme niveleur et celui d'une rivalité sans normes. L'œuvre de Tocqueville tente de résoudre ce conflit, de se situer par rapport à ces deux abîmes présentés par Fabrice Wilhelm.
Alors, l'œuvre de Tocqueville est effectivement une œuvre d'analyse des passions démocratiques. Hein, c'est ce qu'il a de continuité avec les moralistes du XVIIe siècle. Et à partir de cette analyse des passions démocratiques, ce qu'il essaye de trouver, c'est ce qu'Agnès appelait tout à l'heure la recherche du lien social. C'est-à-dire, comment faire en sorte que on ne tombe pas dans le déchirement que produit l'envie entre les individus. Et la réponse, elle est à chercher dans une forme de collaboration entre les hommes qui leur apprend progressivement à se sentir interdépendants. Moi, il y a une citation de Tocqueville que je trouve centrale dans toute son œuvre. Elle est dissimulée dans une note de l'Ancien Régime. « Il n'y a rien de moins indépendant qu'un citoyen libre ». Et donc, c'est une réflexion, en fait, sur l'interdépendance nécessaire.
Aux États-Unis, le conflit a été résolu grâce aux associations qu'il présente, au rôle des associations, des pouvoirs intermédiaires.
Je ne sais pas si le conflit a été résolu aux yeux même de Tocqueville. Un des orateurs, je ne me souviens plus lequel, au colloque, parlait de l'égoïsme serviable des Américains. C'est Lucien Jaume. Oui. Je trouve que la formule est très juste. Se pose au fond deux types de problèmes. Le premier, c'est de savoir si toute association est de nature réellement à créer une interdépendance des individus qui les mène à la liberté. Il y a eu récemment un ouvrage d'un sociologue américain, Putnam, dont le titre est tout un programme. C'était une analyse de la société américaine sous le titre « Bowling Alone », c'est-à-dire cette société dans laquelle les gens font du bowling tout seul. Mais ça n'est pas parce qu'on va faire du bowling ensemble qu'on aura forcément une société qui marche bien, le bowling n'étant pas une activité qui engendre par elle-même une réflexion sur l'intérêt, bien entendu, le passage à des valeurs communes, etc. Donc la première remarque qu'on peut faire, c'est que les associations ont une vertu pédagogique, mais enfin, elles n'ont pas toutes la même vertu pédagogique. Et il est clair que les associations à caractère politique, la presse, les associations religieuses ont une vertu pédagogique plus évidente, sans doute, que certaines associations de, disons, de pur loisir individuel cohabitant. La deuxième question, c'est de savoir si aux États-Unis, véritablement, les associations ont réussi à faire contrepoids à ce dont vous parliez, c'est-à-dire cette multiplication des intérêts divergents, le triomphe, si vous voulez, d'une forme d'individualisme conquérant sur le plan de l'industrie, du commerce, etc. Ça, c'est une question sur laquelle on ne s'accorde évidemment pas toujours et je me garderai bien d'y répondre.
Agnès Antoine ?
Le succès aujourd'hui, vous voulez dire,
oui.
Aux États-Unis ? Je me souviens avoir fait des conférences sur Tocqueville aux États-Unis et le public qui m'écoutait à la fin pleurait presque en disant « Mais comment avons-nous fait pour perdre cette tradition à ce point ?» Et ils avaient une espèce de rêve d'âge d'or mythique, de commencement de la nation américaine où cette tradition aurait été très forte et elle se serait perdue. Ils avaient la même analyse d'ailleurs pour la participation aux institutions locales sur le plan politique, qui avait tant fasciné Tocqueville au niveau de la commune, des townships américaines, etc. Alors je les ai interrogés régulièrement pour essayer de trouver les raisons. Alors il y avait toutes sortes de raisons qui étaient avancées, l'urbanisation, le fait qu'il n'y avait plus les mêmes proximités, enfin toutes sortes de raisons. Alors, socio-historique,
Il y avait visiblement en face de vous une sorte d'angoisse ou une sorte de peur. Et cette angoisse face à la modernité, on la retrouve dans l'œuvre tocquevillienne. Est-ce qu'on la retrouve davantage à la fin de sa vie qu'au début de sa vie, Françoise Mélogneau ou Agnès Antoine?
Je pense qu'on la retrouve certainement davantage à la fin de sa vie.
L'Ancien Régime et la Révolution.
Peut-être pas après l'Ancien Régime, mais je dirais dans toute cette période du Second Empire, qui est quand même pour lui une sorte d'échec à tous les points de vue par rapport aux idées qu'il a pu défendre, à la fois sur le plan politique et même, je dirais, sur le plan religieux. En voyant l'Église catholique se rallier à ce régime autoritaire. Alors, il voit d'une certaine façon la France continuer dans des dispositions qu'il va essayer d'analyser en profondeur dans l'Ancien Régime et la Révolution. Mais avec une sorte de tristesse, je pense. Profonde quelque part.
Il voit les États-Unis s'acheminer vers la guerre civile, ce qui n'est pas de nature à le rendre plus optimiste.
Oui. Ce qui fait de la démocratie en Amérique une œuvre vraiment de son temps antérieur justement à cette guerre civile, ou peut-on la projeter bien après dans sa description à la fin du 19e siècle et la rendre actuelle?
Les Américains lisent encore La démocratie en Amérique comme une œuvre qui pose des questions actuelles. C'est-à-dire que la description de la Constitution américaine dans le volume de 1835 est plutôt une description à intérêt historique aujourd'hui. Je veux dire, on peut trouver ailleurs des descriptions de l'évolution de la Constitution américaine plus complète. En revanche, l'analyse de la société démocratique telle qu'elle est faite dans le volume de 1840 est indiscutablement lue par les Américains comme contemporaine, et j'ai même vu un manuel de sociologie dans lequel il y avait un chapitre par sociologue d'aujourd'hui, et puis il y avait au milieu un chapitre de Tocqueville dont rien n'indiquait qu'il avait été écrit en 1840. Donc là, on a un bon exemple, vous voyez, de ces décalages de l'œuvre de Tocqueville par rapport à son temps.
Je reviens un peu sur ce pessimisme, et vers la fin de sa vie, vous dites, Françoise Meloniaux, au conservateur, Tocqueville parut coupable de ne pas plaider pour une réaction. Aux démocrates, il parut n'accepter la démocratie que par fatalisme. Est-ce que Tocqueville, à la fin de sa vie, était, je ne vais pas dire un incompris, mais en tous les cas, sur le plan politique, dans une certaine solitude ?
Je crois pas. En fait, bon, il est clairement dans l'opposition au Second Empire. Il est rentré dans la vie privée. Il a le sentiment de n'être pas compris par la société française dans son ensemble, dans la mesure où il mesure très bien l'adhésion populaire au régime de Napoléon III. Au moins jusqu'à la guerre de Crimée. Donc il a le sentiment d'un isolement très net dans la société française. Il dit nous sommes comme les dinosaures, les juifs du Moyen-Âge, etc. Enfin, toute une série de comparaisons qui disent l'isolement. Mais en même temps, il a une place éminente comme opposant et représentant de tous ceux qui ont dû quitter la vie politique. Et l'Ancien Régime est un très grand succès, non pas seulement en France, mais finalement dans toute l'Europe. Et ça lui fait d'ailleurs un plaisir immense, de sorte qu'il devient, si vous voulez, un petit peu le grand homme de l'opposition, avec un livre d'histoire qui est lu comme un livre de politique, puisque c'est plein de réflexions possibles sur le présent de ses lecteurs.
Peut-on en faire un prophète qui n'a pas été écouté en son pays ?
Alors, un prophète, c'est vrai que toute l'époque romantique a rêvé de prophétisme, qu'il y a du prophétisme chez Tocqueville d'ailleurs même dans le style. Ce qui me gêne dans l'expression prophète, c'est qu'au fond, il parle aussi de son temps. Ce qui en fait un prophète en un sens un petit peu plus subtil, c'est pas uniquement qu'il annonce l'avenir, c'est qu'il essaye de voir son propre présent d'un point de vue plus élevé, qui est celui de la providence. Voilà. Donc c'est cette distance qui donne son caractère prophétique. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'a pas été suivi dans son propre pays ? Là, c'est une question difficile. Ça n'est pas parce que quelqu'un n'est pas celui qui rédige le programme d'un parti, qu'il n'a pas d'influence sur son propre pays. Et on peut penser que Tocqueville a eu une importance assez considérable jusqu'à l'établissement de la Troisième République, en tant que penseur des garanties, moniteur des dangers de la démocratie, comme dit Laurence Guelec. Bon. Et puis, depuis un certain nombre d'années, je crois qu'il serait un petit peu abusif de dire que c'est quelqu'un qui n'est pas suivi, dans la mesure où son œuvre est lue par des courants politiques extrêmement variés.
Nous nous retrouvons, si vous le voulez bien, dans un instant. À tout de suite.
Vous écoutez Canal Académie.
Thank you.
On retrouve Christophe Dickès.
Nous nous retrouvons pour la dernière partie de notre émission consacrée à l'œuvre d'Alexis de Tocqueville qui a fait l'objet d'un colloque à Cerisy dans la Manche. Un colloque qui est décomposé en deux parties. Une première partie qui vient de se terminer ce 31 mai et une deuxième partie qui aura lieu prochainement à Yale aux États-Unis. Il y aura naturellement des actes qui seront publiés, ceci en automne 2006. Alors, nous avons évoqué l'égalité, nous avons évoqué cette question de la liberté, nous avons évoqué aussi le pessimisme tocquevillien. Il y a une idée très marquante également dans l'œuvre de Tocqueville, surtout en son temps, c'est que 1789 n'apparaît pas dans son œuvre comme une coupure. Il y a une continuité. Ça, c'est complètement nouveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ancien régime et de révolution. Il y a les origines de la Révolution française dans la monarchie elle-même, dans l'absolutisme. C'est bien cela ?
Oui, c'est la thèse dominante dans l'Ancien Régime et la Révolution, c'est l'idée d'une continuité, notamment une continuité dans les habitudes administratives reçues de la monarchie. En même temps, ça n'est pas exactement, si vous voulez, une pensée de la continuité réduite à cela. Il y a au moins deux choses qui restent inexplicables si on s'en tient à la continuité. La première, qui est tout à fait exaltante, c'est 1789 même, c'est-à-dire l'événement du surgissement de la liberté, qui est extrêmement réduit dans le temps, mais qui pour Tocqueville est une sorte de mystère. En particulier, il a une forme de fascination finalement pour le soulèvement révolutionnaire, peut-être pour la nuit du 4 août, comme un événement qui troue l'histoire, si vous voulez. Que rien ne semblait préparer dans les périodes qui suivent, sauf peut-être la liberté assez déréglée des aristocrates. Donc là, c'est le surgissement de la liberté qui est un mystère qui donne des raisons d'espérer. Et puis, il y a une seconde chose qui n'est pas totalement explicable pour lui, c'est la terreur. La terreur excède par le prosélytisme des révolutionnaires, par la brutalité de la terreur, ce qu'avait été le despotisme administratif de l'Ancien Régime. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est que Tocqueville, au fond, n'écrit quasiment rien sur la terreur. Il arrête son œuvre avant d'écrire sur la terreur, avec le sentiment qu'il y a là quelque chose qui résiste à son analyse.
Alors, vous citez d'ailleurs Edmund Burke place cette coupure, enfin considère qu'il y a une coupure dans l'histoire, c'est 1789. En revanche, lui, Tocqueville, cette coupure, il la situe au fond au XIVe siècle avec la montée des légistes.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Tocqueville considère que Burke s'est trompé d'au moins 4 siècles.
D'accord.
Et que, justement, en insistant sur cette continuité administrative, il montre que la tradition française a divergé de ce qui est l'axe anglo-saxon, la tradition anglaise, au moins dès le XIVe siècle, avec l'influence des légistes, avec l'instauration progressive de la monarchie absolue.
Alors, il y a un lien paradoxal entre l'Ancien Régime et la Révolution chez Tocqueville, c'est la religion. Quelle place la religion prend-elle dans l'œuvre tocquevillienne ? Et pour nous parler de ce point, je me tourne vers vous, Agnès Antoine, qui avez consacré un livre sur ce sujet.
C'est une place, en fait, en réalité très centrale, mais pas forcément très apparente. Une centralité un peu souterraine, on pourrait dire. Centrale au sens où Tocqueville avoue à plusieurs reprises dans sa correspondance qu'au fond, là encore, il n'aurait jamais pris la plume, il ne se serait même pas engagé dans la carrière politique s'il n'avait pas cette idée de réconcilier ce qu'il appelle la liberté et la religion. Alors la liberté, c'est la démocratie, c'est la capacité de participer à cette élaboration du destin commun, et puis la religion. Et la grande question, je dirais, qui le traverse presque existentiellement, c'est cette idée que, au fond, pourquoi en France en particulier, les hommes qu'il qualifie de religieux, c'est-à-dire les croyants, sont antidémocrates, et pourquoi inversement les démocrates, les progressistes sont anti-religieux.
Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis.
Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. D'où l'intérêt évidemment de l'exemple américain pour venir relativiser la manière dont s'est construit le rapport religion et modernité en France. Mmh. Et évidemment, bien évidemment, cette question, elle est aussi issue du conflit révolutionnaire. Il y a donc cette volonté chez Tocqueville d'arriver à dépasser cette opposition qui caractérise la France. Donc en fait, la préoccupation est là, elle est très centrale et elle va apparaître dans l'ouvrage de la démocratie en Amérique de façon un peu comme ça, latérale, mais avec cette volonté de montrer précisément une grande démocratie qui non seulement fonctionne sur le plan politique, mais qui justement n'a pas renié ses racines religieuses.
Est-ce que on peut en faire, si vous me passez cette expression, un précurseur de la démocratie chrétienne ?
Alors c'est une étiquette qu'on lui accole parfois. Je crois qu'en réalité, Tocqueville échappe un peu à toutes les étiquettes et qu'on a beau essayer de...
Il n'est pas religieux, c'est-à-dire il ne pratique pas, il n'a pas une... il n'écrit pas sur la religion des traités et des
non,
textes
il n'a
entiers.
Pas écrit de...
C'est vraiment sous-jacent à son œuvre.
Alors, c'est présent comme un thème qu'il va traiter, la religion des Américains,
oui.
Et puis avec toujours cet esprit comparatiste. Ça revient quand même, comme un fil un peu souterrain dans l'Ancien Régime et la Révolution, où le mystère à explorer, c'est peut-être la manière dont les Français ont fait de la raison une religion.
Mmh.
Et le mystère de la terreur qu'évoquait Françoise tout à l'heure, c'est aussi en réalité cette question. Cette question de la manière dont les esprits ont pu comme ça dissocier cette faculté de l'esprit humain et la faire tourner en quelque sorte sur elle-même, dans une sorte de coupure de la sensibilité du reste de l'humanité et qui peut conduire à ces déviations dans l'inhumanité précisément. Et ce mystère dans l'analyse de Tocqueville est certainement lié à cette question du religieux.
Alors, je vais aller un peu plus loin. Ces ouvrages sont condamnés par le Vatican, c'est bien cela ?
Non.
Le Vatican condamne beaucoup de choses au XIXe siècle, y compris les romans de George Sand, oui. Mais pas Tocqueville. Même si l'accueil qui est fait par la presse catholique à ses ouvrages n'est pas d'un enthousiasme fou. En revanche, il a des démêlés avec le Vatican à une autre période, c'est quand il est ministre des Affaires étrangères et qu'il doit gérer l'occupation de Rome par les troupes françaises, dont l'objectif est de rétablir le pouvoir pontifical du pape. Tocqueville n'avait pas un enthousiasme fou pour le rétablissement par les armes du pouvoir pontifical du pape, et à ce moment-là, les propos qu'il tient sur le Vatican sont particulièrement peu indulgents. Il parle d'un camp turc sur les bords du Bosphore. Donc là, il y a une période de tension très manifeste. Mais enfin, ça n'est jamais allé jusqu'à la condamnation par l'Église. Il n'y a aucune proposition hérétique dans Tocqueville.
Alors, justement, je vais essayer de placer Tocqueville en précurseur. Est-ce qu'on peut placer son œuvre dans les idées qui furent développées lors du Concile Vatican II dans les années 1960. Est-ce qu'elle trouve... On sait très bien, il y a eu plusieurs émissions d'un jour dans l'histoire consacrées à ce thème. Il y a tout à la fin du 19e siècle une lutte anticléricale. Donc d'un côté, la démocratie. Alors il y a malgré tout un ralliement à la démocratie. Est-ce que le Concile Vatican II, c'est une pleine réconciliation avec cette démocratie, est-ce que l'œuvre de Tocqueville se situe et se moule dans les idées des années 60 ?
Mais je dirais que si Tocqueville d'ailleurs a eu lui-même des hésitations, des doutes en matière de foi religieuse, c'est qu'il était d'une certaine façon décalé et presque trop en avance dans ses idées sur, la dogmatique chrétienne déjà de son temps. Et que quand on regarde effectivement les textes de Vatican II, les grands textes de Vatican II, on est frappé par le fait qu'il y a une certaine proximité dans l'idée justement d'une réconciliation du christianisme avec le monde. Et Tocqueville avait très bien compris que c'était l'enjeu et qu'au fond la modernité d'une certaine façon était une sorte de révolte des esprits contre une religion qui était restée trop verticale, on va dire, hein, trop préoccupée du ciel, comme le lui reprochaient beaucoup les philosophes, et que la modernité, c'est une valorisation de la sphère terrestre. Et il estimait que justement, le christianisme était porteur de cette capacité à réconcilier d'une certaine façon ces deux dimensions, du moins s'il consentait à se déployer dans toute sa force sur le plan historique. Donc il y a l'idée de cet enjeu qu'avaient paradoxalement décrit les Saint-Simoniens à leur manière en parlant de la réhabilitation de la chair. Et Tocqueville aime bien discuter ce programme saint-simonien, tantôt ça l'agace totalement parce qu'il en voit bien les dérives possibles, tantôt il y reconnaît une vérité qui est précisément cette valorisation de la sphère du monde. Alors, je crois qu'effectivement, Tocqueville aurait été plus à l'aise dans le climat post-Vatican II, au sens où on voit qu'il a cherché à travers ses analyses sur l'Amérique, etc., on voit qu'il a cherché finalement à pousser le catholicisme français à une forme de réforme. Hein. C'est une sorte de catholicisme réformé, au fond, qu'il a en vue quand il parle d'une religion démocratique qui pourrait fonctionner, avoir un apport positif dans les institutions démocratiques.
Il existe une foi chez lui ou bien la religion, au contraire, se réduit à l'utile ?
Alors, c'est une question qui a beaucoup divisé les esprits, parce que parler de l'utilité de la religion, ça peut avoir un aspect un peu choquant. On a le sentiment un peu d'une instrumentalisation. J'ai essayé de montrer que c'est quelque chose de plus subtil. Après tout, Pascal aussi parlait de l'utilité du pari. Et c'est peut-être, encore une fois, un des aspects pascaliens de Tocqueville que de parler d'utilité de la religion. J'ai essayé de montrer qu'il se sépare d'une tradition de philosophie politique qui, elle, a vraiment prôné l'utilité du religieux et qui est une tradition qui, en général, met l'accent sur le motif de la crainte propre aux religieux et que le politique doit utiliser le religieux pour finalement dompter les esprits et qui est donc une tradition très clairement de subordination de la religion aux politiques. Or, Tocqueville, finalement, met au contraire en avant le modèle américain où il y a une claire séparation des deux pouvoirs, et donc il prône finalement ce modèle de séparation dans une France qui est alors concordataire. Et par ailleurs, quand il met en avant finalement les vertus possibles de la religion dans une culture démocratique, il va mettre en avant notamment la dimension de l'espérance, ce qui évidemment est tout à fait l'inverse à beaucoup d'égards de la crainte. Et donc sur la notion de l'espérance et le fait que les religions donnent le goût de l'avenir, sont porteuses du goût de l'avenir dans une société qui va être très orienté vers le présent, mais un présent des petits instants, un présent qui correspond au petit désir de l'individu démocratique et qui renouvelle sans cesse ses petits désirs, mais sans forcément avoir conscience de la durée, ni même du futur, hein, qui finalement croit être dans le présent, mais est dans une sorte de présent vide. Hein.
Alors, nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. Je me retourne vers Françoise Mélogneau. Tocqueville est un homme inclassable, c'est ce qui fait qu'il est bien au-dessus des autres et qu'on le retrouve au fond à chaque époque de crise, comme vous le disiez dans votre livre.
Oui, c'est sûrement un homme inclassable. Il dit « je suis un libéral d'une espèce nouvelle », ce qui est une façon de dire qu'il récuse les classements. C'est ce qui explique aussi la pluralité des interprétations. Il y a plusieurs Tocqueville. Il y a des Tocqueville variables suivant les pays où on le lit, il y a des Tocqueville variables suivant les disciplines qui s'intéressent à lui. Il y a aussi des Tocqueville politiquement variables à chaque époque, finalement, depuis la publication de ses ouvrages.
Agnès Antoine, Tocqueville inclassable ?
Oui, j'en suis persuadée, je défends cette idée, et notamment le fait que cette pensée est toujours un peu devant nous, au sens où c'est une pensée des équilibres, et que nous avons beaucoup de mal, nous pensons plutôt de façon binaire, tout l'un, tout l'autre, tout noir, tout blanc. Or, Tocqueville passe la plupart de son temps à nous expliquer que la réalité est faite d'équilibres, et que nous devons penser ces équilibres. Alors, évidemment, beaucoup de commentateurs le tirent d'un côté, de l'autre, et suivant effectivement les époques, les lieux, Tocqueville est tiré d'un côté, de l'autre, mais sa pensée ne dit pas ça. Elle est toujours en train de proposer finalement une forme d'équilibre contradictoire aux réalités proposées en un moment et en un lieu.
Alors, on a l'impression, et nous terminerons là-dessus, qu'au fond, si on veut réfléchir sur la démocratie, Tocqueville semble incontournable.
Je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il rentre dans des programmes scolaires de plusieurs disciplines, pourquoi on le voit si souvent cité, 40 fois cette année au Congrès des États-Unis. Et ça n'est pas une différence par rapport aux années précédentes, c'est une constante.
Eh bien, Françoise Mélogneau, Agnès Antoine, merci à toutes les deux. Je rappelle à nos auditeurs que Françoise Mélogneau, vous êtes l'auteur du livre Tocqueville et les Français, paru chez Aubier en 1993. Vous avez participé à la publication des œuvres tocquevilliennes chez Gallimard. Et vous, Agnès Antoine, vous avez écrit le livre L'impensé de la démocratie, Tocqueville, la citoyenneté et la religion, primé par l'Académie des sciences morales et politiques, un livre paru aux éditions Fayard. Merci et à très bientôt.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.